France Culture.
Les nuits de France Culture.
Juliette Gréco choisit de nous lire En bas sur le canot, une nouvelle de Jérôme David Salinger. Comme dans son roman à succès L'attrape-cœur, l'incompréhension entre adultes et enfants est au centre de l'intrigue. L'écrivain américain se range avec ceux que l'on appelle les cancres, les têtes de bois, les gamins à côté de leur pompe. Et c'est avec une grande délicatesse qu'il révèle les affres de la jeunesse. Dans ce récit, Lionel, l'enfant en bas sur le canot, est, lui, un gamin fugueur. Entre les mots du romancier, la lumière sur les raisons de sa dernière échappée se fait. Cette rare clairvoyance d'adulte a sans doute plu à Juliette Gréco, ancien enfant perdu dont le père était absent et la mère peint grand amour. Bonne nouvelle grand comédien, Juliette Gréco lit une nouvelle de J.D. Salinger, En bas sur le canot. Une émission diffusée le 31 mars 1972 sur France Culture.
Bonjour, ici Juliette Gréco. C'est donc une nouvelle aujourd'hui de Salinger qui s'appelle En bas sur le canot. C'était peu après 4 heures, un après-midi d'été de la Saint-Martin. Dans la cuisine, cela faisait bien 20 fois depuis midi que Sandra, la bonne, revenait les lèvres serrées de la fenêtre qui donnait sur le lac. Se retournant, elle dénoua et renoua machinalement le cordon de son tablier en serrant autant que le lui permettait son énorme taille. Elle revint vers la table laquée et se laissa tomber, dans sa tenue fraîchement amidonnée, sur la chaise, en face de Madame Snell. Madame Snell, qui avait fini le nettoyage et le repassage, prenait sa tasse de thé, comme d'habitude, avant de descendre la rue jusqu'à l'arrêt d'autobus. Madame Snell avait son chapeau sur la tête. Ce singulier couvre-chef de feutre noir, elle ne l'avait pas quitté, non seulement de tout l'été, mais les 3 derniers étés, à travers les vagues de chaleur les plus caniculaires, les hauts et les bas de l'existence, courbés sur des douzaines de planches à repasser, des douzaines d'aspirateurs. Il portait encore à l'intérieur l'étiquette de Hattie Carnegie, un peu fanée peut-être, mais toujours impressionnante. « Je ne vais pas me casser la tête pour ça, » déclara Sandra, pour la 5e ou 6e fois s'adressant autant à elle-même qu'à Madame Snell. « C'est ce que j'ai décidé, je ne vais pas me casser la tête pour ça. À quoi ça sert ?»
Tout à fait raison, dit Madame Snell. Je m'en ferai pas. Sur ce que j'ai de plus cher, je m'en ferai pas. Voulez-vous être gentil et me passer mon sac ?
Un sac à main, en cuir, usé à mort, mais qui portait à l'intérieur une griffe aussi prestigieuse que celle de son chapeau, était posé sur le garde-manger. Sandra pouvait l'attraper sans se lever. Par-dessus la table, elle le rendit à Madame Snell, qui l'ouvrit et en sortit un petit paquet de cigarettes à la menthe et une pochette d'allumettes du Stork Club. Madame Snell alluma une cigarette, puis porta sa tasse de thé à ses lèvres, elle la reposa aussitôt dans la soucoupe.
« Si ça ne frôlait pas plus vite, je vais le rater, mon bus !»
Elle regarda Sandra qui fixait d'un air sombre la rangée de casseroles de cuivre accrochées au mur. Elle prit un ton autoritaire.
« Cessez de vous ronger les sangs comme ça! À quoi ça vous sert de vous casser la tête? Vous lui dites tout ou il lui dit rien, c'est tout! À quoi ça vous sert de vous casser la tête pour ça ?»« Je ne me casse pas la tête, » dit Sandra. « C'est bien la dernière chose que je ferais de me casser la tête pour ça. Seulement, ça me rend ma boule, moi, la façon qu'il a de se traîner partout dans la maison sans faire de bruit. Vous me comprenez? Ce gosse, on l'entend jamais arriver. L'autre jour, tenez, par exemple, j'ai cossé des haricots, ici, justement à cette table. J'ai failli lui marcher en plein sur sa main. Il était là, juste sous la table. Ah, d'accord, mais c'est pas une raison pour se ronger les sangs. » « Non, mais vous me comprenez, faut faire attention à tout ce qu'on dit devant lui, » dit Sandra. « Ça me rend ma boule.
Oh, »« Je peux pas boire ça, » dit Madame Snell. « C'est terrible quand il faut faire attention à tout ce qu'on dit. »«
Ça me rend ma boule, je vous jure. La moitié du temps, j'ai pas la moitié de ma raison. »
Sandra pousseta des miettes imaginaires sur ses genoux et grogna.
« Un gosse de 4 ans. »« Il est mignon tout plein, » dit Madame Snell. « Les grands yeux noirs qu'il a. »
Sandra grogna de nouveau. « Vous verrez qu'il aura le nez de son père. »
Il leva sa tasse et but sans difficulté. « Je vois vraiment pas pourquoi ils veulent encore rester ici tout le mois d'octobre, » dit-elle d'un air mécontent en posant sa tasse. « Vous me comprenez ? Il n'y en a plus un qui s'approche de l'eau maintenant, même pas de loin. Elle y va pas, il y va pas, le gamin y va pas, personne y va, ils prennent même plus ce sale bateau. Je vois pas pourquoi ils ont gâché du bel argent à ça. Je comprends pas comment vous pouvez boire le vôtre, je peux même pas toucher le mien. » Sandra contemplait à crancune le mur en face d'elle. « Qu'est-ce que je donnerais pas pour rentrer en ville ? Je raconte pas d'histoire, je déteste ce sale endroit !» Elle porta sur Madame Snell un regard hostile. « Vous, c'est très bien, vous vivez ici toute l'année. Vous avez vos connaissances. Ici, tout ça, c'est pas pareil pour vous. »« Faut que j'ingurgite ça, même si j'en meurs, » dit Madame Snell en regardant la pendule au-dessus de la cuisinière électrique. « Mais qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» demanda brusquement Sandra. « Je veux dire, qu'est-ce que vous feriez ? Dites-moi, franchement !» C'était le genre de question où Madame Snell se glissait avec autant de volupté que dans un manteau d'hermine. Elle en oublia aussitôt sa tasse de thé. « Eh bien, en premier lieu, dit-elle, je me casserai pas la tête. C'est ce que je ferai. Je veux vous le dire, je chercherai une autre. »« Je me casse pas la tête pour ça !» interrompit Sandra. « Je sais. Mais moi, ce que je ferai, je me trouverai tout de suite. » La porte battante de la salle à manger s'ouvrit. Et Bobo Tannenbaum, la maîtresse de maison, entra dans la cuisine. Elle avait 25 ans, elle était petite, presque sans hanches, avec une chevelure ébouriffée sans style et sans couleur, qu'elle rabattait derrière ses grandes oreilles. Elle portait un pantalon corsaire qui lui arrivait aux genoux, un pull noir à col roulé, des chaussettes et des savates. Mis à part l'allure farce de son nom et l'absence de toute beauté sur son visage, c'était, par des petits détails inoubliables et voyants, une fille étourdissante et parfaite. Elle alla droit au réfrigérateur et l'ouvrit. Tout en regardant l'intérieur, jambes écartées, mains sur les genoux, elle se mit à siffler faux entre ses dents avec un léger balancement du derrière pour mettre la mesure. Sandra et Madame Snell se taisaient. Madame Snell éteignit soigneusement sa cigarette. « Sandra ?»« Oui, madame. » Sandra regarda vivement par-dessus le chapeau de Madame Snell. « Il n'y a plus de cornichons ? Je voudrais lui donner un cornichon. »«
Les a mangés, » dit Sandra d'un air malin. « Les a mangés. » Avant d'aller au lit hier soir. Il n'en restait plus que deux.
Oh, bien. Bon, faudra que j'en achète en allant à la gare. Je pensais que ça pourrait peut-être le faire sortir de ce bateau.
Bobo referma le réfrigérateur et la regardait par la fenêtre qui donnait sur le lac.
Il y a quelque chose d'autre à pendre ? Demanda-t-elle près de la fenêtre.
Le pain, c'est tout.
Je vous ai laissé votre chèque sur la table d'entrée, Madame Snell. Merci pour tout.
De rien, dit Madame Snell. Il paraît que Lionel a voulu se sauver.
Elle eut un petit rire. T'en as tout l'air, dit Bobo, en glissant ses mains dans les poches de derrière.
En tout cas, il peut pas aller bien loin, dit Madame Snell avec un nouveau petit rire.
À la fenêtre, Bobo se déplaça légèrement pour ne pas tourner le dos à la table des deux femmes.
Non.
Elle ramena une mèche de cheveux derrière son oreille et poursuivit d'une voix confidentielle.
Il part vivre sa vie régulièrement depuis l'âge de 2 ans, mais jamais bien loin, le plus loin qu'il ait jamais été, en ville tout au moins.
C'est au Mall de Central Park. Ce n'est qu'à 2 pâtés de maison de chez nous, et le moins loin, enfin, ou le plus près, c'est à l'entrée de notre immeuble. Il est allé se poster dans un coin pour dire au revoir à son père.
À la table, les deux femmes rirent. Le Mall, c'est là où ils vont tous patiner à New York, expliqua aimablement Sandra à Madame Snell. Tous les gamins et tout.
Oh, fit Madame Snell.
« Il n'avait que 3 ans, c'était l'année dernière, » dit Bobo en sortant un paquet de cigarettes et des allumettes d'une poche. Elle alluma une cigarette, tandis que les deux femmes la regardaient avec des yeux débordants d'intérêt. « Quelle histoire ! Il a fallu mettre toute la police à sa recherche. »«
On l'a trouvé ?» dit Madame Snell.
Bah, « Évidemment qu'on l'a trouvé, » dit Sandra avec ténèbres. « Qu'est-ce que vous croyez ?»«
On l'a trouvé à 11 heures passées du soir en plein milieu de... »« Seigneur, en février, je crois. » Pas un enfant dans le parc, rien que des amoureux. Je me rappelais un tas de vagabonds dégénérés. Il était assis par terre dans le kiosque à musique et faisait rouler une bille en avant, en arrière, le long d'une fissure. À moitié mort de froid, il regardait.
Bonté du ciel, dit Madame Snell. Mais qu'est-ce qui lui était arrivé ? Enfin, je veux dire, pourquoi était-il parti comme ça ?
Bobo souffla un rond de fumée, unique, raté, contre la vitre. Un gosse dans le parc cet après-midi-là lui avait dit pour le faire marcher. Tu pues, petit gars. Enfin, du moins, nous croyons que c'est pour ça. Je ne sais pas, Madame Snell. Ça me dépasse. Et il fait ça depuis longtemps, madame Amstel. Enfin, je veux dire, ça fait combien de temps qu'il est comme ça?
Eh bien, à l'âge de 2 ans et demi, dit Bobo sur un ton de biographe, il est allé se cacher sous un évier au sous-sol de notre appartement, dans la buanderie. Une certaine Noémie quelque chose, enfin, une amie intime à lui, lui avait déclaré qu'elle avait un verre dans sa bouteille de thermos. Du moins, c'est tout ce que nous avons pu tirer de lui.
Bobo soupira et quitta la fenêtre. Une longue cendre au bout de sa cigarette. Elle se dirigea vers la porte du jardin.
« Il faut que j'y retourne, » dit-elle en guise de revoir.
Les deux femmes rirent.
« Mildred, » dit Sandra à Madame Snell, « vous finirez par rater votre bus si vous ne bougez pas. »
Bobo ferma la porte du jardin derrière elle. Elle se tenait sur le petit parapet qui bordait la pelouse, les derniers rayons de soleil dans son dos. À 200 pas devant elle, son fils Lionel était assis sur le siège arrière du canot de son père, amarré, sans voile, ni mât. Le canot formait exactement un angle droit avec le bout du ponton. Un ski abandonné ou perdu flottait, quelques dizaines de mètres plus loin retourné. Mais n'était-ce la vedette du comité qui rejoignait l'ambassadeur de Lake, il n'y avait pas un bateau en vue sur le lac. Bobo n'arrivait pas à saisir une image nette de Lionel. Le soleil plus très chaud mais très brillant noyait tout ce qui se trouvait à quelque distance. Un gamin, un bateau. Cela devenait aussi flou et réfracté qu'un bâton dans l'eau. Au bout d'un moment, Bobo renonça. Elle déchira son mégot entre ses doigts, comme font les militaires, et descendit vers le ponton. On était en octobre et c'en était fini des bouffées de chaleur que les planches du ponton vous renvoyaient au visage. Elle s'avançait en sifflant, Kentucky Babe, entre ses dents. Arrivée à l'extrémité du ponton, elle s'accroupit, genoux écartés sur le rebord. Et regarda Lionel au-dessous d'elle. Il se trouvait à moins d'une longueur de rame. Il ne leva pas les yeux.
« Oui, du bateau, du Boubou. Ami pirate, c'est le cabot. Me revoilà. »
Sans lever les yeux pour autant, Lionel eut l'air tout à coup de vouloir montrer son adresse de matelot et fit virer à fond un tribord la barre, hors d'usage, puis aussitôt la ramena vers lui. Il gardait les yeux obstinément fixés sur le pont du bateau.
« C'est moi, dit Boubou. » Le vice-amiral Tannenbaum, nez glace, en tournée d'inspection des cadets.
Il eut une réponse. T'es pas un amiral, t'es une dame, dit Lionel. Il avait tendance à reprendre son souffle au beau milieu de ses phrases, de sorte que souvent, au lieu de les accentuer, il avalait les mots qu'il voulait faire ressortir. Boubou avait l'air de l'écouter non seulement avec ses oreilles, mais avec ses yeux.
Qui t'a dit ça?
Qui t'a dit que je n'étais pas un amiral? Lionel répondit, mais de manière inaudible.
Qui?
Demanda Boubou. Papa. Toujours accroupi, Boubou passa la main dans le V que formaient ses jambes et agrippa le bord des planches pour garder l'équilibre.
Ton papa est un chic type, dit-elle, mais c'est probablement le plus grand marin d'eau douce que je connaisse.
Il est parfaitement exact que quand je suis à terre, je suis une dame,
tout à fait exact.
Mais ma véritable vocation, c'est en premier lieu, en définitive, et toujours, de bourlinguer sur...
T'es pas un amiral, dit Lionel. Je te demande pardon?
T'es pas un amiral. T'es une dame, tout le temps. Il eut un court silence. Tenant la barre à deux mains, Lionel en profita pour changer à nouveau de cap. Il portait un short kaki et un tricot de coton blanc bien propre, avec un dessin imprimé sur le devant. Jérôme l'autruche en train de jouer du violon. Il était tout bronzé. Et ses cheveux, les mêmes que ceux de sa mère, étaient décolorés par le soleil sur le dessus.
« Il y a beaucoup de gens qui croient que je ne suis pas un amiral, dit Boubou. C'est tout simplement que je ne vais pas le crier sur les toits. »
Attentive à ne pas perdre l'équilibre, elle tira une cigarette et des allumettes d'une poche de son pantalon.
« C'est très rare que j'ai envie de parler de mon grade avec les gens.
Surtout pas avec le petit garçon qui ne regarde pas quand on leur parle.
Je me ferai virer de la marine avec perte et fracas. »
Sans allumer sa cigarette, elle se releva brusquement, se raidit au garde-à-vous, forma un ovale avec le pouce et l'index de sa main droite et le porta à ses lèvres. Elle fit entendre quelque chose qui ressemblait à une sonnerie de clairon.
Lionel leva immédiatement la tête. Il se rendait compte probablement que c'était une sonnerie pour rire, mais il eut néanmoins l'air très intéressé. Sa bouche s'ouvrit. Boubou fit retentir un air, un mélange de taps et de réveil. Trois fois, sans l'arrêter. Puis, dans les règles, elle fit un salut à la rive opposée. Quand finalement elle reprit sa position accroupie sur le bord du ponton, elle parut le faire à contre-cœur, comme bouleversée par le sens d'une tradition navale que les civils, les petits garçons, ne pouvaient comprendre. Elle contempla un moment l'horizon restreint du lac, puis sembla se rappeler qu'elle n'était pas seule. Elle abaissa un regard plein de gravité sur Lionel, dont la bouche restait ouverte. C'est une sonnerie secrète que seuls les amiraux ont le droit d'entendre. Elle alluma sa cigarette et souffla l'allumette d'un long jet de fumée direct et théâtral. Oh, si jamais on apprenait que je te fais entendre cette sonnerie! Elle secoua la tête. À nouveau, elle régla le cap de son regard sur l'horizon.
Recommence.
Impossible.
Pourquoi?
Boubou haussa les épaules. Trop de sous-offres dans les parages, et d'une. Elle se déplaça, s'assit, jambes croisées, à l'indienne. Elle remonta ses chaussettes.
Je vais te dire ce qu'on va faire, dit-elle conciliante. Si tu me dis pourquoi tu t'es sauvée, je joue toutes les sonneries secrètes que je connais, ça va?
Lionel ramena aussitôt son regard sur le pont.
Non, dit-il.
Pourquoi non?
Parce que...
Parce que quoi?
Parce que je ne veux pas, dit Lionel, et barra un bon coup pour appuyer sa phrase.
Boubou de la main protégeait du soleil le côté droit de son visage. Mais tu m'avais dit que c'était fini, que tu ne te sauverais plus. Nous en avions discuté tous les deux. Tu m'avais dit que c'était fini. Tu m'avais promis.
Lionel fit une pause qu'elle n'entendit pas.
Quoi? Dit Boubou.
Je n'avais pas promis.
Mais si, tu avais promis. Et comment tu avais promis?
Lionel continua de tenir bon la barre de son bateau.
Si c'est vrai que t'es un amiral, dit-il, où elle est, ta flotte?
Ma flotte? Je suis bien contente que tu me demandes ça, dit Boubou. Elle se leva pour descendre à son tour dans le canot.
Au large, ordonna Lionel, mais sans lever la voix, ni tourner les yeux. Personne ne monte.
On ne monte pas? Le pied de Boubou touchait déjà à la coque de l'embarcation. Obéissante, elle le retira et le ramena à la hauteur du ponton.
Absolument personne?
Elle se rassit à l'indienne. Pourquoi? Lionel répondit sans hésiter, mais à nouveau trop bas.
Quoi? Dit Boubou.
Parce qu'on n'a pas le droit.
Boubou regarda gravement le petit garçon et ne dit rien d'une bonne minute.
Ça me fait de la peine d'entendre ça, dit-elle enfin.
J'aurais bien aimé monter sur ton bateau. Je suis si seule sans toi. Tu me manques, tu sais. J'ai été toute seule à la maison, toute la journée, sans personne à qui parler.
Il n'y eut pas un coup de barre. Lionel examinait le grain du bois sur le manche. Tu as Sandra pour parler, dit-il.
Sandra est occupée, dit Boubou. Et de toute manière, ce n'est pas avec Sandra que je veux parler, c'est avec toi. Je veux monter dans ton bateau et parler avec toi.
Tu peux parler de là?
Quoi?
Tu peux parler de là?
Non, je ne peux pas, c'est trop loin. Il faudrait qu'on soit plus près.
Lionel fit virer la barre.
Personne monte, dit-il.
Quoi?
Personne monte. Bon.
Alors veux-tu me dire d'où tu es? Pourquoi tu t'es sauvée, demanda Boubou, après que tu m'aies promis de ne plus le faire.
Des lunettes sous-marines gisaient dans le fond du canot, près du siège arrière.
Pour toute réponse, Lionel les attrapa par le serre-tête, entre le gros orteil et le second orteil de son pied droit, et d'une détente nette et rapide de la jambe, les jeta par-dessus bord. Elles coulèrent à pic.
C'est gentil, c'est constructif, dit Boubou. C'est les lunettes de ton oncle Webb. Oh, ça, il va être ravi.
Elle tira longuement sur sa cigarette.
Avant elle, elles étaient à ton oncle Seymour.
m'est égal.
Ben, je vois, dit Bobo, je vois bien.
Le bout incandescent de sa cigarette, coincée de travers entre les doigts, arrivait à proximité dangereuse de l'une de ses phalanges. Elle sentit brusquement la chaleur et laissa tomber la cigarette à la surface du lac. Elle sortit alors quelque chose d'une poche de son pantalon, un paquet, à peu près de la taille d'un jeu de cartes, enveloppé de papier blanc et entouré d'un ruban vert.
« C'est un porte-clés, » dit-elle, sentant le regard du gamin se lever vers elle. « Exactement comme celui de papa. »
Et avec beaucoup plus de clés. Il a 10 clés, celui-là. Lionel, se penchant en avant sur le siège, abandonna la barre, tendit les mains pour attraper.
« Tu lances, » dit-il. « S'il vous plaît. »
Examinons les choses une minute, rayon de soleil. Il faut que je réfléchisse un peu. C'est dans le lac que je devrais lancer ce porte-clés.
Lionel l'a regardé bouche bée. Il referma la bouche.
C'est à moi,
dit-il, pas très sûr de son droit. Boubou, les yeux baissés vers lui, haussa les épaules.
Ça m'est égal.
Lionel se rassit lentement sur le siège et continuait de regarder sa mère et de la main chercher la barre derrière lui. Son regard disait qu'il avait très bien compris comme sa mère s'y attendait.
Tiens.
Bobo lui lança le paquet. Il l'a tiré juste sur ses genoux. Il le regarda, le prit, le regarda encore lorsqu'il fut dans sa main. Et le lança, vivement, par-dessus l'épaule, dans le lac. Puis tout de suite, il leva les yeux vers Boubou. Des yeux dans lesquels il ne vit pas de défi, mais des larmes.
La seconde d'après, ses lèvres s'étiraient en forme de 8 horizontales et il pleurait tout son soûl.
Boubou se leva avec précaution, comme quelqu'un dont le pied s'est engourdi au théâtre, et elle descendit dans le canot. En un instant, elle était assise sur le siège arrière, le pilote sur ses genoux, le berçant, l'embrassant dans le cou, expliquant... « Les marins ne pleurent pas, mon petit. Les marins ne pleurent jamais. Sauf quand leurs navires sombrent et qu'ils font naufrage et qu'ils sont sur un radeau et tout ça, avec rien d'autre à boire que... »«
Sandra... Sandra... Elle a dit à Madame Snell que papa, c'était un sale... un sale gros youtre. »
Bobo réprima un sursaut. Elle souleva le gamin de ses genoux, elle le mit debout devant elle. Elle lui écarta une mèche de cheveux sur le front. « Elle a dit ça, hein ?» Lionel fit oui de la tête, gravement. Il se rapprocha, toujours pleurant, pour être dans les jambes de sa mère. « Eh bien, ça n'est pas si terrible, » dit Popo. Elle l'empoisonna dans ses bras et dans ses jambes. « Ça pourrait être pire que ça. » Elle mordillait doucement l'oreille du gamin. « Tu sais ce que c'est qu'un youtre, mon chéri ?» Qu'il ne put pas ou qu'il ne voulut pas, Lionel ne répondit pas tout de suite. Il laissa ses sanglots et ses hoquets s'apaiser un peu. Quand il parla, sa voix sortit étouffée de la chaleur du cou de Boubou.
« C'est un gros truc dans lequel on met de l'eau, dit-il. »
Pour mieux le voir, Boubou écarta légèrement son fils. Elle plongea la main dans le fond de la culotte de l'enfant qui sursauta, puis la retira, et lui arrangea soigneusement son tricot de coton dans la ceinture. « Je vais te dire ce qu'on va faire, » dit-elle. « On va aller en voiture jusqu'à la ville. Et on achètera des cornichons et du pain. Et puis on mangera les cornichons dans la voiture. Et puis on ira attendre papa à la gare. Et puis on ramènera papa à la maison et on lui dira de nous amener faire un tour en bateau. Il faudra que tu l'aides à l'amener la voile. D'accord ?»«
D'accord, » dit Lionel.
Ils ne marchèrent pas pour rentrer à la maison. Ils firent la course. C'est Lionel qui gagna.
Vous venez d'entendre Juliette Gréco lit Salinger en bas sur le canot dans l'émission Bonne Nouvelle Grand Comédien de Patrice Galbaud, réalisée par Evelyne Frémy.